Sa chère Mazoche, femme slave, la petite Russie, la pénitente. C'était jour de grande foire au chef-lieu du district. La vaste place était couverte de baraques formant des avenues et des rues comme une seconde ville, pleine de vie, de mouvement et de bruit. Des milliers de gens circulaient sous le ciel bleu par le soleil doré d'une belle et froide journée d'automne. Les paysans, petits Russiens, étaient venus avec leurs chariots attelés de 3 chevaux, suivis d'un poulain, la cloche au cou. Parmi les pelisses et peaux de mouton blanches et les foulards multicolores des paysannes, on apercevait les caftans noirs des Juifs, les figures rusées des Arméniens, les sérieux Karaïtes aux longues barbes, et les Mélonites avec leurs cheveux blonds. Des gentilshommes polonais, vêtus de redingotes à brandebourgs, traversaient lentement la foule dans leur voiture. Ça et là, de grandes dames en toilettes élégantes, de leurs sièges, souriaient et coquetaient. Ici, on marchandait des chevaux, fins et fougueux. Là, des bœufs magnifiques, de race hongroise, aux cornes en forme de lyre. Des paysannes admiraient des bijoux en faux corail, des perles de verre, des foulards aux teintes voyantes, des bottes en maroquin de toutes couleurs, pendant que les enfants mordaient à pleines dents dans le pain d'épices et que les hommes se régalaient d'eau de vie. Ceux qui manquaient d'argent s'acquittaient avec des produits agricoles. S'établissait une sorte d'échange, comme chez les trappeurs américains ou dans les bazars de l'Asie. Des paysannes payaient un petit pot de fard ou un peigne avec quelques mesures de blé ou un certain nombre de pots de brebis. Au son de la grosse caisse, des écoliers, des servantes et des soldats s'élançaient sur les chevaux ou les cygnes et les cerfs des bois, et tournaient tous dans un tourbillon vertigineux. Et non loin de là, criaient des perroquets devant la tente d'une ménagerie à l'aspect misérable, et 2 athlètes, tout transis dans leurs maillots parsemés de paillettes d'or, exécutaient des tours variés. Des Juifs et des Tziganes faisaient entendre leurs mélodies sauvages auxquelles se mêlait le bruit assourdissant des trompettes et des tambours déniant des flûtes et des petits violons. Au milieu de cette foule et de ce vacarme, se promenait paisiblement un jeune homme habillé en bourgeois. C'était un étudiant nommé Roman Doroshenko, qui était venu passer quelques jours de vacances chez ses parents de braves provinciaux. Il avait le vrai type cosaque, grand, élégant, lent, nerveux, les cheveux blonds, coupés ras. Il portait haut sa jolie tête aux traits sévères et réguliers, et ses yeux, au grand regard hardi, lui donnaient un air fier et provoquant. Il n'achetait rien, n'avait rien à vendre, ne prêtait pas plus d'attention aux tigres et aux plongeongleurs qu'aux jolies femmes dans leurs toilettes parisiennes ni aux filles du village avec leurs bourlourdes tresses. Il marchait au milieu de tout ce monde, comme parmi les arbres morts d'une sombre forêt de sapins, et paraissait absorbé dans ses pensées. Soudain, un grand mouvement se produisit dans la foule compacte. Il se fit un silence que troublait seul le cri perçant des airs, des aras. Tout le monde s'écarta avec une sorte de respect et un léger frémissement. Une apparition étrange, mystérieuse et surhumaine traversa lentement la large voie que formaient ces multitudes d'hommes. C'était une jeune femme d'une beauté énigmatique, diabolique et angélique à la fois. Elle était grande et forte, son vêtement simple et de couleur sombre, retenu à la taille par une corde grossière, Laissez voir son cou, sa nuque et ses bras magnifiques brûlés par le soleil. Elle marchait pieds nus et la tête nue. Ses cheveux opulents, d'un blond rougeâtre, tombaient dénoués jusqu'à ses hanches. Sa belle tête, aux yeux candides, était courbée profondément et son dos ployait presque sous le poids d'une grande croix grossièrement charpentée. Pourtant, elle était aussi fière dans son abaissement que touchante dans son mépris du monde. Tous la regardaient surpris. Quelques-uns faisaient le signe de la croix, mais personne n'osait lui adresser la parole. Ce ne fut qu'à l'extrémité de la ville, arrivée aux dernières maisons, qu'une voix humaine résonna pour la première fois à son oreille. Sur les marches d'une petite maison nouvellement blanchie, une femme, jeune et jolie, se tenait debout, un petit bonnet sur la tête, se prélassant avec complaisance dans sa casabaïka garnie de fourrure. Le poing sur la hanche, dans tout l'orgueil de sa vertu cruelle, elle lui jeta un regard moqueur et s'écria « Ah, voyez la pécheresse! Elle a flétri sa jeunesse dans la débauche, et maintenant qu'elle ne peut plus séduire personne, elle veut se réconcilier avec Dieu. C'est la flagellation qu'il te faudrait, Madeleine repentante, et si je t'avais sous la main, je t'aiderais bien à apaiser le ciel. » La pénitente leva la tête et sourit. C'était comme un remerciement muet. Et le sourire empreint d'une pieuse satisfaction la transfigura. Elle s'arrêta, laissa tomber lentement sa croix à terre, et se rapprochant de la jeune femme, se jeta à genoux devant elle. « Et que me veux-tu ? » demanda celle-ci. « Oh, je suis prêtre, » répondit l'étrangère, laissant glisser son lourd vêtement de ses belles épaules aux chères rosées. « Flagelle-moi !» La jeune femme cacha ses mains dans ses manches, doublées de fourrure de scarabeïka, et se tut. « Je t'en supplie, frappe-moi !» La fière vertu restait toujours muette et ne bougeait pas. « Si tu ne veux pas me flageller, » continua la pécheresse, « foule-moi aux pieds, car je le mérite. » Elle se jeta sur les marches devant son juge, baissant la tête, la nuque inondée de sa chevelure sauvage. La jeune femme, les dents serrées, la frappa à deux reprises du bout de son petit pied dédaigneux. D'un mouvement spontané, la pénitente de ses deux mains s'empara de ce pied, chaussé d'une pantoufle brodée d'or, et le pressa contre ses lèvres. « Merci, » murmura-t-elle, « tu m'as fait du bien. » Elle se leva, remit la lourde croix sur son épaule, puis, triste et humble, continua son pèlerinage. La jeune femme, devant la maisonnette blanche, couverte de vignes grimpantes dorées par le soleil, la suivit d'un regard étonné jusqu'à ce qu'elle eût disparu dans un nuage de poussière soulevé par le phaéton d'un riche juif. Derrière la ville, la route montait, se perdait sur la hauteur à travers une grande et épaisse forêt. Là, dans un fourré, caché derrière un mur de petits sapins, la pénitente s'était assise sur un tronc d'arbre, la tête appuyée sur ses deux mains. La croix reposait dans l'herbe devant elle. Elle fut tirée brusquement de son anéantissement et parut se réveiller d'un rêve lourd et oppressant. Des pas précipités se rapprochaient, craquant sous les branches de sapin dont le sol était jonché. L'instant d'après, l'étudiant qui l'avait suivi, écartant les branches, parut à ses yeux. L'étrangère tressaillit. « Ne crains rien, » dit le jeune homme, « je ne suis pas ici pour me moquer de toi ou te juger. Tu me fais pitié. Je ne puis pas te laisser partir comme les autres sans chercher à te venir en aide ou à t'être de quelque secours. Que puis-je faire pour toi? Dis-moi. Je le ferai de grand cœur. » La pénitente secoua la tête. « Tu parais bien lasse. Tes forces sont épuisées, » reprit-il. « Tu ne peux pas continuer cette nuit ton pèlerinage chargé de ton lourd fardeau. Viens, je veux t'emmener dans la maison de mon père. Mais je te remercie, mais je la profanerai, » répondit-elle doucement. « Alors en quoi puis-je te soulager ?»« Tu es bon, » répondit-elle, fixant sur lui le regard profond de ses grands yeux bleus d'enfant. « Mais dis-moi ce que je pourrais te donner. »«
De l'eau, une gorgée seulement. »« Oh, j'ai marché tout le jour. Je meurs de soif. Je n'ai plus la force d'aller à la recherche d'un puits. »
Roman descendit à grandes enjambées et la pente au bas de laquelle coulait une source limpide, et remplissant son bonnet d'eau, il l'apporta à la pauvre pécheresse qui la huma à pleine gorgée.
« Que Dieu te récompense, » dit-elle.
Puis elle tomba dans un anéantissement. Roman se coucha dans l'herbe à ses pieds et la contempla. Et tout d'un coup, elle tourna la tête vers lui.
« Ne me regarde pas, » s'écria-t-elle. « J'ai été une cause de péril pour plus d'un. Je pourrais te rendre malheureux comme les autres. Ne me regarde pas, va-t'en, va-t'en. »
« Non, non, je reste.
Je t'avertis une dernière fois.
Oh, moi, je n'ai pas peur.
Mais que veux-tu donc ?» demanda-t-elle. « Je suis une grande pécheresse. Ma vie est vouée à la pénitence. Si tu me connaissais comme Dieu me connaît, mais tu m'arracherais au visage, tu me cracherais au visage, et tu me repousserais loin de toi.
Oh, tu ne saurais être mauvaise avec ces yeux-là.
Je l'ai été pourtant.
Tu es malheureuse.
Malheureuse, oh oui, bien malheureuse.
Mais j'ai été mauvaise, vicieuse, éternelle. Et maintenant, je suis une réprouvée. Les hommes me fuient comme la peste, et ils ont raison.
Non, ils ont tort. Mais que sais-tu donc de moi ? Dit la belle pécheresse avec un sourire amer et douloureux. Ah, si je voulais parler,
mais parle donc. Après un moment d'hésitation, elle dit,
soit, je suis la fille d'Honel Jean. Mon père était garde-barrière dans un village près de Colonéa. Mais moi, j'ai toujours le désir de monter plus haut. Déjà, tout enfant, quand j'écoutais les contes de fées que nous racontait ma mère, je rêvais au bonheur d'être une tsarine ou quelque belle sultane. J'avais 16 ans. C'était par un jour d'hiver froid et lumineux. Une file joyeuse de traîneaux passa devant moi. Au son d'une musique entraînante, des chevaux fougueux emportaient de jolies femmes enveloppées de fourrures et accompagnées de galants cavaliers. Alors je les suivis des yeux, jusqu'à ce qu'ils eussent disparu dans le lointain, se dessinant à l'horizon comme une volée de corbeaux noirs. Je me demandais, mais pourquoi ne peux-tu pas aussi, toi, glisser les bras blancs dans de modestes fourrures et t'étendre nonchalamment dans un traîneau de Dieu ? Ne l'a-t-il pas créé aussi belle que toi ? Par une tiède nuit d'été, je me baignais dans un étang voisin, caché au milieu de la forêt. La pleine lune paraissait à travers les rameaux et me montrait en image se reflétant dans l'eau. Je me trouvais belle et folle de vanité. Je couvris de baisers mes bras et mes épaules. Quelques jours après, je cherchais des fraises dans la forêt. Un jeune couple s'avança vers moi. L'homme était grand et beau, la femme jeune, charmante et richement vêtue. Je savais qu'elle était la femme d'un autre, et pourtant, ils s'embrassaient en secret dans la forêt. J'étais debout, caché parmi les broussailles, et je retenais mon souffle. Oh, comme ils s'embrassaient! Oh, c'en était trop, j'étouffais. Je poussais un cri de biche blessée et m'enfuis en courant. La nuit même, je quittais secrètement la maison paternelle. J'arrivai dans la capitale. Là, au milieu de ce tourbillon brillant, je me sentais dans mon véritable élément. Je voyais la fortune devant moi, mais je ne pouvais encore l'atteindre. Et un jour, je me trouvais dans la rue, sans argent, tourmenté par la faim et grelottant de froid. Je m'arrêtai devant les vitrines illuminées, derrière lesquelles j'apercevais des bouteilles de champagne et des pâtés appétissants qui excitaient ma convoitise. Je me fis entouré de femmes élégantes enveloppées douillettement dans leurs grandes pelisses. La nuit commençait à tomber, et je n'avais pas de lit. Je me mis à sangloter. Au même moment, une vieille femme, à l'air digne, s'approcha de moi. Elle m'emmena avec elle, me fit bien manger et boire, et j'eus enfin la volupté de glisser mes bras nus dans les larges manches d'une bonne fourrure. Cette femme me donna tout, et je lui vendis en échange mon corps et mon âme. Je me sentis heureuse jusqu'au dernier jour où je fus blessée pour la première fois par l'aiguillon du mépris. Tout mon orgueil se révolta. Je devins mauvaise et méchante. J'étais avide de sang. Je me vengeais sur les hommes qui m'humiliaient et sur les femmes qui me fuyaient comme une réprouvée. Je savourais toutes les jouissances du mal avec une sorte de volupté, et je devins un démon pour eux, ceux qui me désiraient, et une brute pour ceux qui m'aimaient. Je triomphais quand je pouvais fouler aux pieds un homme follement amoureux de moi, et je le maltraitais comme un chien. Pourtant, Dieu m'a cherché et m'a frappé. Au milieu de ma honte dorée, je tombais malade. Un verre de champagne glacé, bu après une danse folle, me nuisit entre la mie et la vore. Étendu sur ma couche, abandonné, trahi et pillé par tous, je luttais pendant de longs jours contre la sinistre vicieuse visiteuse. Une sœur de charité me soigna avec un amour tout chrétien. Elle sauva mon corps et mon âme. Dès que je fus rétabli, je vendis tout ce qui me restait de mon ancien luxe et en distribuai l'argent aux pauvres. Je pris cette croix sur mon épaule et j'essaie, en faisant mon pèlerinage à travers le monde, d'obtenir le pardon de Dieu. Oh, me sera-t-il accordé? Je ne le sais. Et longtemps elle se tut. Le jeune homme restait immobile à ses côtés. Mais toi, reprit-elle enfin, tu me connais maintenant, tu vas me mépriser. Méprise-moi, oui, c'est bien ainsi. Poursuis ton chemin et laisse-moi continuer le mien. Elle se leva et essaya de reprendre son lourd fardeau, mais ses membres fatigués s'y refusèrent. À ce moment, Roman se leva et prit la lourde croix. « Que fais-tu ? » s'écria-t-elle effrayée. « J'irai avec toi. »«
Tu voudrais ? »
« Oui, je le veux. »«
Tu voudrais porter cette croix si lourde ? »
Oui, pour toi.
Et pourquoi?
parce que je t'aime.